C'est-à-dire qu'on va puiser dans la réalité l'histoire que l'on a envie de raconter. Pourquoi? Parce que, et c'est là que j'en arrive vraiment à mon désir de théâtre, enfin, je ne peux pas répondre juste pour cette pièce sans parler de ce qui m'a amené au théâtre. Quand j'avais votre âge, je ne savais pas ce que je voulais faire. En fait, j'étais totalement en perdition totale. Ça faisait 2, 3 ans que j'avais été viré de plein de lycées parce que j'avais trop d'absentéisme, etc. J'étais allé voir une conseillère d'orientation qui m'avait tout bien fait remplir. Et puis à la fin, elle était devenue toute blême et elle m'a dit: Oh, monsieur Brossard, ben écoutez, il y a un seul résultat. Moi, j'étais content. Je me dis: Chouette, au moins, j'ai pas à choisir. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Elle me dit: Ben, vous pouvez devenir berger. Ça, du coup, ça a été un échec cuisant. Et du coup, ça a été pire en fait, parce qu'à partir de là, c'était vraiment la catastrophe totale. Et en même temps, la seule chose, moi, qui me raccrochait, c'était de lire. Je lisais énormément. Et je lisais de tout. Et je me suis mis à lire beaucoup de théâtre. Et en fait, dans le théâtre, j'ai découvert que tout ce qui me préoccupait à ce moment-là, qui bouillait en moi, qui me révoltait, d'un coup, à travers le théâtre, j'ai découvert qu'il était possible d'en faire ma vie et d'en parler, d'évoquer tout ça. Ça, je vous le dis parce que, en gros, moi, si je fais du théâtre, c'est pour aborder des sujets qui me sont chers, qui me révoltent, dont j'ai cruellement besoin de parler. Aujourd'hui, en France, quand un étranger demande la nationalité française, il y a une cérémonie, donc au moment de, on appelle ça la cérémonie de naturalisation, on est convié à la préfecture, ou si c'est dans un pays étranger, c'est l'ambassadeur qui fait tout ça. Et en gros, il y a tout un texte un peu type que la personne dépositaire de l'État lit donc à l'étranger qui devient français. Et ce texte dit en substance, hein, aujourd'hui vous devenez français. Devenir français, c'est faire vôtre l'histoire de la France, l'enrichir de votre propre histoire. Cette histoire, vous devrez l'assumer dans ses pages de grandeur comme dans ses pages sombres. Ça, moi, ça, c'est l'origine même de ma vocation théâtrale. Parce que j'ai passé une scolarité entière, alors chaotique, vous l'avez compris, hein, mais même si de temps en temps je tendais l'oreille, et à moins de tomber sur quelques perles de prof, à cette époque-là, en tout cas, je ne peux pas parler d'aujourd'hui, je pense que les choses ont quand même beaucoup évolué, beaucoup changé, la parole se libère et il y a des nécessités qui sont là. Mais moi, la période où j'ai fait ma scolarité, ces pages sombres, personne ne les a évoquées. Et je me suis rendu compte qu'à un moment, si moi, je n'allais pas chercher par moi-même à explorer l'histoire, ma propre histoire, je n'aurais aucun accès évident à cette histoire. Et cette histoire, on en est porteur et dépositaire. On n'en est pas responsable, mais on ne peut pas faire comme si on n'en était pas porteur. Quand on voyage à travers le monde et qu'on est français, on porte avec nous l'histoire de la cinquième puissance mondiale, qui a été une grande puissance colonisatrice, qui a continué à faire des exactions dans le monde entier, qui est le troisième vendeur d'armes au monde, le deuxième pays en termes de bombardement sur tous les pays du Moyen-Orient, etc., etc. Après tout ça, on va pouvoir développer. À un moment, moi, cette histoire, j'ai besoin de l'affronter, d'en parler, de la malaxer. En même temps, être français, je refuse, moi, catégoriquement, de laisser les symboles de la République française aux identitaires et tous les extrémistes et autres. La devise de la France, elle est monstrueuse, elle est géniale. Et à un moment, c'est aussi à nous, à chacun de nous, de s'en saisir et de la porter haut et fort. Mais de la porter haut et fort avec les valeurs que nous, on décide d'y mettre. C'est-à-dire que liberté, égalité, fraternité, franchement, ça déchire. Enfin, qui peut dire à un moment qu'il est contre ça? Mais il faut que la liberté soit absolue et fondamentale. La liberté, c'est la liberté de penser, la liberté de s'exprimer, la liberté d'être, la liberté de croire. La laïcité, c'est tout le monde peut croire et tout le monde a le droit d'avoir ses propres croyances et son propre culte dans le cadre privé, ne doit pas l'imposer à qui que ce soit. Mais ça ne veut pas dire renier sa religion. L'égalité, c'est l'égalité fondamentale des droits comme des devoirs, mais c'est une égalité qui est absolument fondamentale. La fraternité, c'est quand même d'abord faire en sorte que nous soyons tous avant tout des êtres humains, avant toute autre considération, l'autre, c'est mon frère. Donc, ou ma sœur. C'est la sororité. Il faudrait d'ailleurs dépaternaliser un petit peu, mais ça, c'est encore une autre histoire. Alors, donc par rapport à cette histoire, en fait, là, on arrive vraiment, moi, à mon approche du théâtre. Et du coup, les auteurs avec lesquels je travaille, enfin, forcément, on finit par avoir la même approche, parce que du coup, on se choisit aussi mutuellement pour partir sur des projets. Donc, il y a toujours un fond de vérité, parce qu'on décide à un moment d'interroger l'histoire. En même temps, c'est très important pour nous, puisqu'on fait du théâtre, de raconter une histoire. Et du coup, de pouvoir s'affranchir à un moment de la réalité pour les besoins de l'histoire qu'on est en train de raconter, pour pouvoir à un moment inventer des choses. Ce texte-là, ah, attends, la question, parce que je ne veux pas non plus.
Est-ce que c'est réel ou c'est une fiction?
Voilà. Donc, l'histoire de 8 novembre, elle puise son origine dans des faits qui sont totalement réel. Akimba, l'auteur, était en Guinée. Il est guinéen, donc voilà, il est né en Guinée, il a grandi en Guinée, il a fait sa scolarité en Guinée, lui, Guinée-Conakry. Lui non plus, on ne lui a pas parlé de toutes les pages sombres de son pays, parce que ce n'est pas exclusif à la France, c'est ça qui est bien. Et il était là au moment où le pont 8 novembre a été détruit. Et il s'est rendu compte qu'à un moment, c'était une page de l'histoire de son pays qu'on détruisait, mais qu'on détruisait sans aucune compensation historique, morale ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on détruit le pont, on construit un échangeur, terminé. Et quelque part, le devoir de mémoire, c'est quelque chose qui doit justement nous connecter avec notre propre histoire. C'est ça qui fait qu'à un moment, on est armé et qu'on peut, on peut affronter le monde avec, chargé de notre histoire. L'histoire de la Guinée. Je pense qu'on va en parler aussi, je ne vais pas faire tout le développement. Mais en gros, le pont 8 novembre, c'est le pont sur lequel avaient lieu les pendaisons publiques à l'époque de Sékou Touré. Sékou Touré, c'est 25 ans de règne. C'est le camp Boiro qui a vu passer 50 000 personnes, que des réfugiés politiques, femmes, enfants. 50 000 personnes sont mortes au camp Boiro, mortes par inanition ou exécution. L'inanition, c'est privé de nourriture et d'eau jusqu'à la mort. Et le camp Boiro a été récupéré par l'armée pour en faire une caserne. Ils ont refait toutes les peintures. Maintenant, on passe devant. Franchement, c'est cool, c'est nickel. Il y a quelques militaires qui sont là. Il n'y a même pas une plaque. Si on ne nous dit pas que c'était là, on ne sait pas en fait. C'est une caserne militaire en centre-ville, quoi. Et le pont 8 novembre, maintenant, c'est un super échangeur. Il y a l'Institut français qui est à côté. Voilà, tranquille. Donc, quelque part, Hakim s'est dit, puisque le devoir de mémoire n'est pas fait, charge à nous, artistes, de le faire, ce devoir de mémoire. Donc l'origine du texte, c'est ça, c'est ce besoin impérieux d'un devoir de mémoire. Pour autant, il est rentré dans un processus d'écriture où il a énormément rencontré, recueilli des témoignages de personnes qui avaient vécu au camp Boiro, qui avaient de la famille qui était passée par le camp Boiro, etc. Et donc l'histoire de ce personnage qui est né au camp Boiro, que vous verrez demain, il y a beaucoup de prises sur la réalité par rapport à une personne qu'il a rencontrée qui est véritablement née au camp Boiro. Et en même temps, il en a fait un personnage pour la nécessité du récit. Donc il lui a attribué des souvenirs, attribué une vie, attribué une situation, attribué des parents, etc., etc., qui sont complètement loin de la réalité. De là à dire que ça n'a pas existé, de toute façon, c'est un condensé de beaucoup de choses, quoi. Voilà. Je pense que là, j'ai répondu. Bon, attendez, il y en aura d'autres.
On continue. On va aller
Vas-y,
sur la
vas-y.
question. Alors, mademoiselle Jade.
À quel moment de la création et comment avez-vous choisi ou créé les musiques qui sont présentes dans la pièce?
Longuement. Alors, c'est pareil, je pourrais dire en direct, directement, et puis point, ce serait une réponse, mais je vais quand même refaire
petit historique.
Voilà. On va beaucoup parler d'Afrique, là, pendant l'heure et demie qu'on va passer ensemble, évidemment. Donc après, ça traverse notre histoire, parce que quand on parle d'interroger notre histoire, quand je vous parle tout à l'heure de la francophonie, voilà, je fais une aparté. La francophonie, pour vous, c'est quoi? Vous pouvez me dire? Comme ça. Hein.
Je disais, pour moi, la francophonie, c'est donc pour les pays francophones, c'est des pays dont la langue est le français et qui ont subi une influence, que ce soit politique, sociale, etc., de la part de l'État français.
Ok. C'est intéressant.
Pour moi, c'était plutôt une association de pays qui parlent tous français, qu'on peut citer comme par exemple le Canada ou des pays africains, et la France aussi, et qui ont choisi de faire cette association pour faire vivre la langue française à travers le monde.
Non, je rajouterais juste à la définition d'Evora que la plupart du temps, ce sont des pays, des ex-pays colonisés par la France.
Donc voilà, toutes les réponses que vous donnez sont justes. La francophonie, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que quand tu parles d'association, en fait, il y a la francophonie avec un F majuscule, la francophonie avec un F minuscule. C'est un peu comme quand on met ville avec un V majuscule. Voilà. La ville de Mirande avec un V minuscule, c'est l'endroit géographique. Et avec un V majuscule, c'est l'administration qui concerne la collectivité locale. Voilà. La francophonie avec un grand F, c'est l'organisation politique de la francophonie, qui est en effet cette association des pays qui ont pour langue officielle le français, mais pas uniquement. Il y a des pays observateurs, comme la Roumanie fait partie de la francophonie. Voilà. La francophonie avec un petit F, c'est l'ensemble des locuteurs français. Du coup, en France, on est combien d'habitants? Moi, je suis toujours sur 65 millions, mais on est peut-être plus, non? 67. Voilà. Vous savez combien il y a de locuteurs français dans le monde? 230 ou 224, un truc comme ça, mais c'est bien, plus de 200 millions. Il y a 54%. Alors là, je vous balance des chiffres, mais en même temps, ils ont peut-être bougé parce que je me les suis mis en tête à un moment et puis après, je les balance comme ça, mais voilà. Mais globalement, hein. Après, on n'est plus à 2% près. Il y a 54% des locuteurs français qui sont sur le continent africain. Et en fait, la France a vraiment ce problème. Elle a plein de problèmes, la France, et ça en est un. De se sentir soit au centre de la francophonie, soit totalement en périphérie. Elle n'arrive pas à se sentir dans la francophonie. Dans la francophonie, ça veut dire que, tout simplement, la France n'est pas dépositaire de la langue française. Il y a beaucoup plus de personnes que d'habitants français qui parlent le français et qui, pour autant, sont tout aussi légitimes à contribuer à faire vivre cette langue, et notamment le continent africain. Alors, bien sûr, dans la francophonie, on a, on va dire, la francophonie riche, les Blancs. Bonjour. Donc, le Québec, la Belgique, la Suisse, et puis c'est trop loin dans notre histoire pour qu'on se rappelle pourquoi on parle tous le français, donc ça va, c'est plutôt cool, quoi. Et puis après, il y a la francophonie qui pique un peu plus, quoi, qui fait plus mal, quoi. Donc là, on a vraiment le Laos, le Vietnam, même si aujourd'hui, c'est plus du tout des langues nationales. Et puis tous les pays africains qui sont en effet nos anciennes colonies. Et là, on arrive vraiment au cœur de notre propos. L'Afrique... Donc il y a, voilà, tout ça, c'est vraiment une introduction par rapport à la musique. C'est que donc l'Afrique et la France, c'est vraiment une histoire qui n'est pas près de s'arrêter, avec énormément de paternalisme, en même temps autant d'inimitié, de haine, que d'amour, que d'incompréhension. Et ce qui fait que la France jusqu'à aujourd'hui, même si les choses ont évolué, continue à faire ce qu'elle fait en Afrique, une des armes qui lui permettent ça, c'est une forme de propagande qui fait que, encore aujourd'hui, en France, nous n'avons pas une vision de l'Afrique réaliste. Si on demande à la plupart des habitants français ce que c'est pour eux l'Afrique, on va nous dire bah, « c'est quoi pour vous l'Afrique ?» Comme ça, spontanément. Si je dis « dites-moi trois images qui vous traversent de l'Afrique. Voilà. » Hmm ? Allez-y, hein, il n'y aura pas de bêtises. Hein. Spontanément, comme ça.
Moi, j'ai vécu un petit peu en Afrique. Et pour moi, l'idée principale qui caractérise la France par rapport au monde, à l'Europe, c'est la pauvreté, parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de pauvreté et ça m'a pas mal marqué quand j'étais jeune.
Comme tu disais, c'est vrai, il y a la pauvreté, mais je pense qu'on peut voir aussi qu'il y a un sens de l'entraide qu'on ne voit pas forcément dans les pays occidentaux. Et c'est assez touchant et assez, je pense, révélateur aussi de leur mode de vie.
Il y fait aussi particulièrement chaud et il y a pas mal de pollution aussi qui rejaillit sur l'Afrique. Avec des décharges à ciel ouvert qui contiennent plein de choses.
Dis ton nom et présente-toi vite.
Dis ton nom. Comment ça ? Ben, je m'appelle Caroline, ouais, il fallait que je dise mon prénom. Du coup, je pense qu'aussi qu'il y a un aspect culturel super développé, parce que moi, quand je pense à l'Afrique, je pense aussi à toutes les musiques justement qu'il peut y avoir. C'est super coloré, donc je pense aussi qu'il y a une histoire culturelle avec des fêtes, ou je ne sais pas exactement, je ne suis pas assez calée sur l'histoire. Mais je pense qu'au niveau culturel aussi, c'est assez développé. Voilà.
Je m'appelle Indira. Moi, quand je pense à l'Afrique, je pense notamment à un pays, enfin, de nombreux pays qui sont un peu meurtris par leur passé colonial et qui sont aujourd'hui sujets à de nombreux conflits liés à ça, pour beaucoup.
Vous avez très bien répondu, mais vous n'êtes pas tombé dans mon piège, même si je suis sûr que... après, c'est très intéressant, tout ce que vous avez dit. Et ça contribue globalement dans ce que vous avez dit à l'image qu'en France, on a du continent africain. Déjà, il y a une approche de la France de regarder l'Afrique et non pas les Afriques. Et c'est rare qu'on parle des pays en Afrique. Encore une fois, je vous prends un autre exemple. La France a des saisons culturelles par le biais de son opérateur culturel à l'international, c'est l'Institut français. Et en fait, on a depuis toujours des saisons croisées entre la France et un autre pays. France-Brésil, France-Roumanie, France-Argentine, France-États-Unis, France-Vietnam. Et en 2020, c'était France-Afrique. Et ça, c'est l'histoire de la France. L'Afrique, c'est comme un grand village. C'est comme un grand pays dans lequel on fait assez peu de distinctions. On va parler de telle ou telle guerre, de tel conflit ethnique, mais on ne parle pas de peuple, on parle d'ethnie. On a cette image quand on allume la télé et qu'il y a un reportage sur l'Afrique, c'est soit pour montrer des guerres, soit pour montrer de l'extrême pauvreté, soit pour montrer que l'Afrique, c'est un très mauvais élève sur la transition écologique, parce que vraiment, ils sont très sales et ils ne recyclent pas leurs déchets. Ou alors, c'est pour montrer des femmes au sein nu qui font 20 km avec un seau sur la tête pour aller chercher de l'eau parce qu'elles sont extrêmement courageuses et font preuve de beaucoup de résilience dans des conditions extrêmement compliquées. Et par-dessus tout, les Africains sourient dans la misère au chaud. Et ça, on a quand même cette image très paternaliste de l'Afrique. Et l'image qu'on a de la culture africaine, de manière générale, souvent, encore une fois, vraiment, là, je fais une grande généralité, je vous parle d'une image très générale. Hein. On peut, et bien heureusement, avoir d'autres visions en allant se frotter. Hein. Mais en fait, dès qu'on va parler de musique africaine, on entend djembé, balafon, etc. Et puis, il y a tout ce côté de cérémonial, de fête, de mariage, d'enterrement sur lesquels on n'est pas habillé en noir et on pleure pas, mais au contraire, on sort les djembés et on danse. Et en fait, enfin voilà. Moi, j'aurais pas la prétention de dire que je connais très bien l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est très grand, il y a beaucoup de pays. De ce que j'ai pu voir de l'Afrique francophone, il y a énormément, c'est extrêmement rural, parce qu'il y a énormément de petits villages, mais il y a surtout des grandes villes. Il y a une jeunesse hallucinante. Il y a beaucoup de pays où 80% de la population a moins de 25 ans. Et il y a une culture urbaine énorme avec une jeunesse africaine qui veut se saisir des cultures de son époque, qui n'en a rien à foutre du djembé, du balafon, et qui ne peut plus entendre une note de kora. Parce que des djembés, il y en a au Mali, mais il n'y en a pas au Congo, parce que ça ne s'appelle pas comme ça. Et à un moment, parce que les cultures urbaines et les mouvements hip-hop, c'est ça qui permet à la jeunesse du monde entier de se connecter à un socle culturel commun. Là, on est vraiment sur un patrimoine culturel. Et ce patrimoine culturel, s'il y a un truc qui met tout le monde d'accord dans le monde entier, c'est les mouvements hip-hop. T'as pas une ville au monde où t'as pas un graphe. T'as pas une ville au monde où les jeunes se retrouvent dans une cave pour faire du rap. En fait, ça, et chacun l'enrichit de son apport culturel. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hallucinant, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de mouvements qui aient une telle ampleur planétaire. Donc moi, dans mon approche pour raconter ces histoires, c'était primordial de raconter l'Afrique telle que moi, en tout cas, je la ressens à travers ces cultures-là. C'est pour ça que sur le plateau, le texte, il est écrit pour un acteur uniquement. Moi, j'ai souhaité qu'on puisse déployer avec un musicien et un danseur. Donc, le danseur, c'est un danseur hip-hop. Et pour le musicien, pour moi, alors après, là, c'était aussi un trip. Hein, mais j'avais vraiment envie qu'on puisse se frotter au beatbox. Parce que pour moi, vraiment, un des mouvements, dans le mouvement hip-hop, une des choses caractérisées, c'est vraiment caractéristique, c'est le beatbox. Avec aujourd'hui l'arrivée des Loop Station qui permet vraiment d'aller toujours un petit peu plus loin. Et du coup, on a vraiment recherché à l'intérieur de ça et on a proposé à un musicien, beatboxer, de construire tout l'univers sonore. Donc ça veut dire que l'univers sonore du spectacle, il est fait entièrement en direct. Il y a peut-être deux parties qu'il a déjà enregistrées dans sa Loop Station. Ça, c'est vraiment juste parce qu'on s'est dit, plutôt que de les faire en direct, si tu les as déjà, tu gagnes du temps, mais c'est vraiment très précis. Mais sinon, l'intégralité de la musique que vous verrez demain est construite et fabriquée en direct par le beatboxer. C'était une grande introduction pour répondre à une...
Bien, monsieur Pierre.
Il y a quand même quelque chose, ils se rattraperont. Oui.
Déjà, bonjour à vous deux. Et ma question est, lorsque vous jouez cette pièce, que pouvez-vous ressentir à l'égard des Guinéens à cette époque ?
Merci Pierre pour cette question. Je ne sais même pas si on joue cette pièce. On ne la joue pas. On essaye de la vivre comme le Guinéen de cette époque l'a vécu. Pendant le travail de recherche, nous sommes allés en Guinée. Nous sommes allés toucher, sentir l'odeur de la poussière. voir les couleurs de la Guinée, regarder les visages de la Guinée, entendre le son de la Guinée pour pouvoir raconter cette histoire. Donc on se place vraiment à l'endroit du Guinéen qui a vécu en tôle, dans cette prison-là. Parce qu'on parle quand même d'un enfant qui est né dans cette prison et qui raconte un peu son vécu. Et ensuite, sorti de cette prison, comment est-ce qu'il a découvert la ville qu'il n'a jamais vue et qu'il entendait juste parler. Voilà, je crois qu'on a répondu. Ah ouais. Ça te va, Pierre?
Oui.
Parfait. Ça vous va aussi?
Non, mais j'ai une autre question. Toi, ouais, de ton point de départ, tu n'es pas guinéen?
Ah, il faut que je raconte la genèse. Moi, je suis camerounais à la base. Voilà. Vraiment, à la base. Je peux prétendre que je suis camerounais parce que je suis né là-bas. Mon père et ma mère sont camerounais à fond. Un jour, j'ai quitté le Cameroun parce que j'en pouvais plus. Je me suis retrouvé au Burkina Faso. Je me suis installé au Burkina Faso. J'ai fait la vie au Burkina Faso. J'ai rencontré cet homme au Burkina Faso. Et après le Burkina Faso, voici quelques années que je suis en France. Donc, j'ai un très beau parcours déjà dans la côte au niveau de l'Afrique subsaharienne. Là, j'ai pas mal voyagé, flirté avec pas mal de Guinéens, d'Ivoiriens, de Nigériens. Voilà, j'ai pas mal traîné dans ces pays-là. Voilà, je ne peux pas dire que je connais l'Afrique, mais je crois qu'elle coule dans mes veines, comme on dit souvent. Ouais. Alors. Ah.
J'espère que c'est de ce côté maintenant. Monsieur Axel.
Ah non.
Donc, je me demandais si vous aviez eu, lors de la représentation ou même la création de la pièce, est-ce que vous aviez des moments marquants ou des anecdotes à nous raconter, à partager, des moments qui vous ont marqué lors d'une représentation ?
Pendant la création ou une représentation Non, comment ça présente ?
Ouais. Il y a... Alors, il y en a certaines, oui, mais on ne peut pas les raconter. Le théâtre, pour moi, c'est aussi ce qui fait que j'ai choisi d'en faire ma vie. Et je pense, globalement, quand on décide d'en faire notre vie, c'est ce qu'on veut, c'est que c'est des aventures humaines. Donc, en fait, oui, de toute façon, des anecdotes, on en a mille. Pendant un long moment, les marins... c'était les premiers techniciens au théâtre, parce que quand on créait les premières machineries de théâtre, en fait, tout ce système de cordage, les poulies, etc., c'était vraiment très proche, en fait, des marins. Et donc, il y a des connexions qui se faisaient. Et moi, j'ai tendance, après, là, c'est moi qui m'invente mon mythe, mais j'aime bien, à penser qu'il n'y avait pas que ça. C'est qu'une aventure théâtrale, pour moi, c'est très proche de la marine, et je me vois comme un marin. On décide de prendre un bateau, c'est celui d'une création, et on sait d'où on part. On sait où est-ce qu'on va, parce que le but, c'est créer un spectacle, et puis on a une date qui est programmée dans un théâtre. Tout ce qu'on va traverser au milieu, on n'en sait rien. On sait qu'il y a des moments où on va se prendre la tête, on va affronter des tempêtes, on va avoir des moments où il y a la mer plate et on a zéro inspiration. Il y a des moments où on sort d'une journée, on est dégoûté, parce que vraiment, ce qu'on a fait, c'est nul. Et il n'y a rien. Et des moments où, en fait, on arrive à minuit, on n'arrive même plus à s'arrêter parce que c'est foisonnant. Enfin, vraiment, en fait, on est traversé par de l'émotion et par de l'aventure humaine. Et cette aventure humaine, c'est ce qui fait aussi que quand on cherche à constituer une équipe et un équipage pour une traversée comme ça, on choisit les gens pour ce qu'ils savent faire, un beatboxer, un danseur hip-hop, un comédien, bien sûr, mais pas que. C'est pas possible, enfin, tout le monde n'est pas fait pour travailler ensemble. Même si artistiquement ils sont bons, c'est pas pour ça que ça va marcher. Et à un moment, moi, je ne souhaite pas non plus qu'on ne soit que dans un rapport très professionnel, à même pas être capable de se parler. En fait, on va en Guinée ensemble, et puis on va voir tous ces trucs-là, le Camboiro, ça, c'est des moments qui sont incroyables. On va interroger sur des personnes qui ont vécu tout ça, et là, on a des montées d'émotions, on a la gorge, on n'arrive plus à parler. et on se rend compte que on sait ce qu'on fait là. Après, dans les moments précis, alors là, c'est très pathos, mais en même temps, moi, c'est aussi des moments où je sais pourquoi je fais du théâtre. Sur Avignon, on a eu l'occasion de jouer avec des jeunes mineurs isolés, des réfugiés, des jeunes migrants, donc qui ont à peu près votre âge, je pense, parce que c'est vraiment tous les classes UPE, 2A, tout ça. Je ne sais pas si vous voyez, enfin bref, c'est des dispositifs pour des jeunes migrants mineurs sous la protection de l'enfance qui sont scolarisés. Et du coup, on a eu toute une classe. Ils étaient quasiment tous africains et sur tous, tu en avais quelques-uns qui venaient du Mali, mais une grosse partie venait de la Guinée. Et ils sont sortis de là quasiment en larmes. Et vraiment, enfin, il y avait une charge émotionnelle qui était hyper puissante parce que, ben, en fait, ils ont quitté la Guinée là, aujourd'hui, et d'un coup, ils avaient... ils entendaient en fait leur pays, ils ont ressenti leur pays, ils ont pris cette charge aussi historique. Donc ça, pour moi, c'est vraiment des moments qui sont importants, bien sûr. Enfin, vraiment, quoi.
Voilà, moi, j'ajouterais qu'il y a quand même aussi la relation humaine. Hein. C'est super important. Et pour parler des anecdotes, Cédric l'a dit, il y en a tous les jours. Je crois même que demain, il y en aura une encore. Alors moi j'ai une bonne, ça me concerne. En fait, à un moment du spectacle, je dois porter des lunettes. C'est moi qui les place en fait, au début du spectacle. Dans ma tête, je les avais placées. Alors quand j'arrive à ce moment précis, j'ai pas mes lunettes. Et mon collègue assis en face de moi, il me regarde et je le regarde. Où sont tes lunettes? Bon, on se regarde tous les deux. Je crois qu'on a bouffé 10 secondes là. Elle se dit, bon, on continue. Hein. De toutes les façons, on est là. Voilà. Et on a continué. On en a ri comme des cons à la fin de la représentation. Et c'était trop bien. Mais voilà. Il y en a comme ça, franchement, à la fourchette. Hein. Voilà.